rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset.
Dans cette séquence, nous zoomons évidemment sur des métiers. On parle souvent ici de pénurie de main-d'œuvre, donc on voit aussi des métiers où il y a un vrai besoin et vraiment aller chercher aussi des nouveaux arrivants, comme on en parlait. Mais il y a aussi une nouvelle approche de la formation et notamment, on va parler du CFA de demain. Le CFA de demain, il est du côté du BTP CFA Centre Val-de-Loire. Et donc, pour en parler, Christophe Delmure, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour, vous êtes pilote du développement numérique du BTP CFA Centre Val-de-Loire, j'en parlais, directeur du campus 41 à Loire-et-Cher. Et donc vous avez un capitaine aussi de l'équipe pro dans l'histoire qui est Michael Tassin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, alors quelques mots chacun pour vous présenter, Christophe Delmure tout d'abord.
Donc effectivement, Christophe Delmure, donc directeur du CFA du bâtiment du Loir-et-Cher, mais aussi pilote pour l'association régionale du développement numérique, surtout sur ses aspects pédagogiques. Et donc l'idée, c'est d'innover dans nos établissements avec un outil et des outils qui utilisent les ressources numériques.
Très bien. Et Michael Tassin, donc vous êtes capitaine de l'équipe, vous, c'est ça?
Oui, alors je suis au BTP CFA Indre-et-Loire, moi, et donc je suis... responsable du lab numérique qui se trouve au sein de BTP CFA Centre Val-de-Loire. J'étais capitaine de l'équipe qui a présenté le projet Lab Connect au trophée de l'innovation.
Voilà, vous y arrivez justement à ce sujet, puisqu'ici on en avait parlé, il y a une micro-coupure, donc je vous reprends derrière. Vous en avez parlé de ces trophées de l'innovation du WinLab, importé par le 3CABTP, on en avait parlé ici même dans cette émission, et donc vous êtes grand prix du jury avec ce projet Lab Connect. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? En fait d'abord, je vais me tourner vers Christophe Delmure, hein, s'il est bien avec moi, c'est de transformer les fameux CRAF, un centre de ressources et d'aide à la formation, en lab. C'est ça la base de la réflexion de ce projet?
Effectivement, alors c'est un projet qui s'entre dans une approche un peu historique, puisque je dirais que depuis 3 ans, on réfléchit à rénover notre ingénierie, et notamment cet outil qui était le CRAF, un acronyme qui était un peu barbare, et pas très heureux quand même, voilà, pas très explicite en tout cas, et qui fait qu'aujourd'hui, on a cette réflexion, s'est portée donc dès 2018 à l'idée de transformer ces espaces pour, en fait, si on devait faire l'analogie, ça ressemble à des CDI hein, dans un collège, un lycée, pour le grand public, mais l'idée, c'est effectivement d'en faire un lieu où on va s'autoriser à innover, à penser autrement les parcours de formation dans le CFA. Donc, on était bien avant, pour ceux qui ça fait écho, avant la réforme professionnelle, la formation professionnelle qui s'est mise en œuvre en 2020. Donc, 2 ans avant, on commençait déjà à se questionner et à dire ces espaces, il faut qu'on les repense autrement, etc. Et déjà, commencer par leur donner un autre nom, que ça ait du sens pour tout le monde. Et effectivement, très vite a émergé l'idée de la notion de lab, avec l'idée que c'est un espace, on doit expérimenter, on doit innover, on doit oser des choses, qu'elles réussissent ou qu'elles échouent, peu importe, l'important c'est d'essayer de dépoussiérer notre modèle et d'interroger ce modèle.
Alors, on va en parler de ce modèle, mais Michael Tassin, vous-même, vous avez été CRAF, responsable du CRAF, pour résumer, et vous le dites un peu, c'est un poste qui est un peu ingrat quand même.
Oui, c'est vrai. Alors moi, j'étais relativement jeune dans le poste.
Je pense qu'on a une micro-coupure, c'est dommage, parce qu'on a du mal à vous suivre. On vous entend?
Ouais, vous m'entendez là?
Ouais, allez-y.
Je vais peut-être revoir ma connexion juste après. Mais donc je disais, moi j'étais relativement jeune dans le poste de responsable CRAF, contrairement à mes collègues des 4 autres CFA qui sont en poste depuis une 20aine d'années. Et en échangeant beaucoup avec eux, c'est vrai que ce sont des postes où on est assez isolé parce qu'on est tout seul à occuper cette fonction. Une fonction qui n'est pas toujours très bien comprise de la part des collègues et pas toujours très bien valorisée. Donc, une des premières mises en œuvre qu'on a fait en tant que responsable de CRAF pour échanger, parler, échanger nos expériences et mutualiser nos compétences.
Voilà, il y a encore des micro-coupures. On va voir si on vous retrouve après ou éventuellement on finit par téléphone. On a parfois la difficulté. Comme quoi, la technique, parfois, on crée des labs, mais c'est pas toujours très simple. Alors, je vais repasser la parole à Christophe Delmure hein, pendant que vous voyez un petit peu votre connexion, Michael Tassin. Il a commencé à l'évoquer, Michael Tassin. C'est vrai que c'est aussi une démarche très collective. Hein. Je parlais Centre Vallée de Loire hein, en vous définissant, mais vous avez embarqué l'Inde, l'Indre-et-Loire, l'Eure-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret dans la démarche. C'est un projet très collaboratif.
Effectivement, l'idée, c'était aussi d'avoir cette approche, de cette démarche projet à une échelle régionale, mm-hmm. avec effectivement 5 campus qui ont travaillé ensemble. Et Michael le disait à travers quelques micro-coupures, c'est qu'effectivement, ces personnels étaient souvent un peu isolés dans leurs fonctions, même au sein de leur établissement et encore plus au niveau régional. Donc l'enjeu, il était aussi managérial de créer cette équipe et que pour qu'elle ait du sens, c'est de leur faire partager. Donc la première chose qu'ils ont questionné, c'est bien sûr leur place dans le système, dans l'ingénierie, mais c'est aussi dans leur environnement et leur professionnalité. Donc le travail était vraiment fondamental de créer cette cohésion régionale, effectivement, et d'avoir une démarche collaborative, parce qu'effectivement, on le sait tous, le collectif sera toujours plus fort que l'individu et qui doit entraîner, et c'est bien ce qu'on espère, c'est cet effet de dynamique, de synergie collective qui va pouvoir nous aider à transformer nos labs, et plus largement, mais on y reviendra après, dans les perspectives, c'est qu'effectivement, d'avoir une dynamique bien plus large qu'au-delà des labs tels qu'ils sont aujourd'hui.
Au-delà des labs. Et alors, je crois aussi que voilà, vous avez travaillé entre vous. Vous êtes peut-être allé chercher quand même quelqu'un aussi qui vous a éclairé dans votre réflexion, c'est ça, sur le lab. Vous n'avez pas fait ça tout seul?
Bien sûr. L'important, c'est de ne pas être centré que sur soi-même. Et peut-être qu'une façon d'interroger nos organisations, nos représentations, c'est peut-être d'aller chercher un regard externe. Effectivement, on a bénéficié de l'accompagnement d'une consultante qui nous a permis d'avoir une approche analytique, mais introspective aussi sur ce qu'on fait, mais aussi de perspective pour pouvoir identifier ce que l'on souhaite faire et comment ce travail-là a donc été mené avec cette consultante et avec les responsables pédagogiques des 5 campus. C'est pas du tout un travail, comme on l'a dit, solitaire, c'est un travail d'équipe des responsables de lab, mais aussi de responsables pédagogiques, et le tout encadré avec un regard extérieur, parce que parfois, en étant trop centré sur soi-même, auto-centré, il faut être en mise à distance par rapport à notre quotidien pour pouvoir ouvrir nos perspectives.
Alors, Michael Tassin, est-ce qu'on vous a retrouvé au niveau de la connexion pour nous en dire un peu plus sur ce projet qui a été lancé il y a 4 ans, c'est ça?
Oui. Alors, juste pour reprendre, c'est vrai qu'on mutualise beaucoup de choses, même la connexion, ça doit être Christophe qui me prend toute la connexion, c'est pour ça que ça marche mal.
Vous auriez dû vous mettre dans le même bureau, certains l'ont fait.
oui, mais on est quand même séparés d'une cinquantaine, soixantaine de kilomètres.
Ah oui, quand même, oui, ça aurait pas été simple. Oui, oui, oui. Donc au niveau bilan carbone, c'est pas terrible, donc très bien, chacun dans son bureau.
Non, tout à fait. excusez-moi, du coup, je vais bien que vous me répétez.
Oui, je parlais du projet lancé il y a 4 ans, vous pouvez rebondir aussi sur l'idée de la mutualisation. J'ai posé la question à Christophe Delmure le temps que vous retrouviez aussi votre connexion. Mais...
Oui, alors sur la mutualisation, en fait, à l'heure actuelle, il y a un gros point sur lequel on est en train de travailler, et c'est assez représentatif justement de la direction dans laquelle on veut aller. Donc les CRAF, qui sont devenus maintenant des labs, étaient au départ des centres de ressources. Donc qui dit centre de ressources dit ressources, à la fois ressources papier, hein, puisqu'on a des abonnements, des livres techniques, etc., mais aussi des ressources numériques. Et plutôt que d'avoir chacun nos propres ressources dans nos CFA, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble de ces ressources pour que l'ensemble du personnel de BTP CFA Centre puisse savoir à l'instant T quels sont l'état de nos ressources sur un sujet précis, par exemple les échafaudages. Un formateur qui recherche des informations sur les échafaudages va pouvoir consulter une plateforme qui regroupe l'ensemble de nos ressources, savoir où se trouve précisément la ressource, est-ce qu'elle est papier, numérique, et du coup pouvoir se la faire rapatrier en cas de besoin.
Et donc ça, c'est vraiment central, c'est une mutualisation des connaissances et des expériences. Et évidemment, puisqu'on parle de lab, il y a beaucoup de connexions dans tout ça. Vous avez acquis aussi des équipements.
Alors oui, effectivement. Donc historiquement, le lab, c'est un petit peu l'endroit où se situait la salle informatique sur laquelle on travaillait au départ essentiellement de la... de la bureautique, hein, l'usage Word, Excel, enfin les traitements de texte, etc. On ouvre évidemment ces outils numériques à l'usage maintenant des maquettes 3D, du BIM, puisque cela fait partie maintenant des référentiels. On travaille aussi sur de la modélisation, parce que certes, nos jeunes, notamment en CAP, n'ont pas forcément besoin de dessiner, c'est pas l'objectif de la formation. Mais par contre, on s'aperçoit qu'en passant par le dessin, ils ont une meilleure compréhension après de la visualisation de la maquette 3D. Donc ça, c'est une des évolutions qu'on a. Et puis, on s'est équipé, puisque maintenant les jeunes savent modéliser, notamment d'imprimantes 3D, ce qui nous permet d'imprimer ce que les jeunes modélisent. C'est plutôt très intéressant. Et puis, on a aussi d'autres équipements, comme du matériel qui permet de travailler en collaboration. On a un grand écran tactile qui permet de faire de la collaboration autour de projets. Et on a d'autres équipements qui arrivent bientôt, notamment l'achat d'un drone pour pouvoir faire de la formation autour du pilotage de drone. Je pense aux couvreurs à qui ça permet d'aller constater l'état d'une toiture ou d'une gouttière. Laser, oui.
Oui, je crois qu'on vous avait encore une micro-coupure. Je crois qu'on vous entendait plus, mais on vous entend encore. Allez-y.
Je ne sais pas du coup, qu'est-ce que vous avez entendu?
Bah, vous étiez sur les drones, etc., sur les techniques.
Voilà, hein, c'est bon. les drones pour la formation, pour intégrer ça dans la formation, par exemple, de nos couvreurs, pour aller contrôler l'état des toits, des gouttières, etc. Mais aussi, là, je me suis renseigné il n'y a pas très longtemps sur une découpeuse laser, ce qui nous permet, en fait, nous, de pouvoir compléter au fur et à mesure notre équipement du lab qui est.
Alors, je pense qu'on a à nouveau perdu. Peut-être Christophe Delmur peut rebondir sur cet aspect virtuel aussi, qui est majeur, dont on parle de plus en plus. Enfin, ici, même depuis ce matin dans l'émission, on parlait du numérique, mais pas le numérique pour le numérique. Il faut que ça soit un outil, et typiquement un outil d'apprentissage qui est quand même central dans ces métiers.
C'est ça. C'est qu'effectivement, les outils numériques, aujourd'hui, intègrent pleinement nos formations, et les labs sont le lieu, la porte d'entrée, je dirais. Effectivement, Michael évoquait les outils, les maquettes numériques, les impressions 3D, des casques de réalité virtuelle. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes sur les campus qui ont de la métallerie ont accès à des masques pour permettre d'apprendre à souder de façon virtuelle, mais de façon très précise, avec un certain nombre de capteurs qui permettent d'identifier si les angles, si la durée de soudage est suffisante. Donc, c'est très précis et ça permet effectivement d'être dans un acte à la fois pédagogique, bien sûr, de formation, mais innovant parce qu'avec des ressources qui permettent aussi d'être vigilant sur la sécurité, bien sûr, parce que c'est la première étape d'apprentissage, un peu comme pour le permis de conduire, etc., se fait peut-être dans des simulateurs. Et donc, c'est bien en ce sens que le lab est justement mis en œuvre pour solliciter, pour intégrer ces nouveaux outils et ces nouvelles pratiques pédagogiques de façon à rendre à la fois innovant, attractif, mais surtout plus performant les actes de formation qui sont notre mission première.
Mais avoir ça de l'extérieur aussi, ça vous a nécessité quand même de déployer des moyens aussi.
C'est ça, mais c'est vrai. Mais du coup, ça a du sens quand on va voir un financeur, quand on y va régionalement, disons que ça s'intègre dans un projet collectif. Ce n'est pas juste pour un établissement. Et là, effectivement, on parlait tout à l'heure des écrans numériques interactifs ou des imprimantes 3D. Les 5 campus ont été équipés de la même façon. Parce que derrière, s'équiper d'un outil, il faut surtout avoir des projets. Les outils n'ont aucun sens si surtout en amont, on n'a pas un projet. Et c'est bien sur ça qu'on a travaillé. Notre stratégie, c'était de construire un projet, d'identifier les outils ressources et après d'aller chercher les financements. Mais je crois que c'est ce qui nous a appris à convaincre nos financeurs et puis là, dans le cadre du trophée WinLab, de convaincre là, le jury qu'effectivement, le collaboratif, le collectif, comme je disais tout à l'heure, sera toujours plus performant et surtout plus convaincant, que ce soit pour financer ou pour, dans ce cadre-là, remporter ce trophée.
Alors, Michael Tassin, vous nous entendez à nouveau. Peut-être commenter ce que vient de dire Christophe Delmur, si vous êtes avec nous.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, effectivement, la force du collectif, hein, c'est ce sur quoi on s'appuie au quotidien. Je pense que, d'ailleurs, je commence moi à recevoir des appels de collègues responsable CRAF encore, du coup, d'autres régions qui sont très intéressées par notre projet. Et la première chose, moi, la première valeur que je leur transmets, c'est travailler collectivement, travailler au niveau régional. Vous allez voir, vous allez accélérer, vous allez booster le projet, ça va aller beaucoup plus vite, quoi.
Ça va aller plus vite. Et alors, vous l'avez dit, c'est collaboratif. Vous engagez évidemment les jeunes du CFA, mais aussi les formateurs. J'imagine qu'il faut aussi peut-être une pédagogie adaptée. Quand on fait arriver aussi ces nouveaux outils, ça nécessite de se former.
Alors, en fait, les formateurs s'approprient assez naturellement l'usage du lab, parce que déjà, en fait, alors c'est vrai que là-dessus, on a un peu d'avance. On a énormément de nos formateurs qui savent déjà modéliser. Et c'est vrai que la modélisation au sein du lab, c'est quand même un élément hyper important, parce que si on veut passer par l'impression 3D derrière, on doit savoir un minimum modéliser. Alors, la plupart de nos formateurs métiers savent aujourd'hui utiliser un modeleur 3D et savent modéliser à peu près ce dont ils ont besoin. Et puis après, moi, j'interviens parce que j'ai un peu plus de compétences sur une amélioration du prototype. Et puis, on fonctionne par prototypage, différentes étapes. Et puis, quand moi, j'ai pas les bonnes ressources, eh bien, je vais m'orienter vers un collègue qui les a. Et comme ça, on mutualise totalement nos compétences et on essaye de se faire augmenter en compétences les uns les autres au fur et à mesure. Et ça, c'est donc à la fois vrai pour la modélisation, mais on travaille à l'heure actuelle aussi sur un petit peu d'électronique avec la domotique et choses comme ça. Donc, on essaye de se faire augmenter les uns les autres nos compétences. Mais effectivement, des fois, ça passe aussi par de la formation beaucoup plus traditionnelle. Et c'est en ça que nos CFA nous accompagnent par l'envoi en formation. Ils font de la gestion de ressources humaines pour qu'on puisse monter en compétences, quoi.
Exactement. Et alors, répondre aussi aux questions dont on parle depuis ce matin, aussi les enjeux de transition écologique, l'économie circulaire, la gestion des déchets, ça sont des points aussi que vous abordez dans votre CFA, évidemment.
Oui, alors, en plus, on peut les aborder très pratiquement, on va dire, très concrètement, puisque je reviens sur l'impression 3D. Ce qui est assez intéressant avec cette technologie, c'est que... on est sur l'usage de matières plastiques recyclables et recyclées. Et du coup, on a la possibilité, alors on est encore en développement là-dessus, mais de pouvoir réutiliser ce qu'on a imprimé et qui n'existe plus, enfin et qui n'est plus utile, de le retransformer en plastique qu'on va pouvoir réimprimer derrière pour pouvoir faire une nouvelle pièce. Donc à travers cet exemple très précis, eh bien, on est typiquement là dans l'économie circulaire où finalement la ressource boucle sur elle-même. Et donc c'est très concret et très parlant pour les jeunes, pour le coup.
Et alors, Christophe Delmure, vous pouvez rebondir aussi sur cet aspect-là. Et puis après, on va parler plus globalement des prochaines étapes. Mais d'abord, sur cet aspect en transition écologique, en tout cas.
Ben effectivement, la grande transition qu'on peut citer, c'est passer de CRAF, un centre d'aide à la formation, à un lieu de formation. Et qu'effectivement, sensibiliser, former, accompagner les jeunes sur cette prise de conscience qui est forcément obligatoire pour tout le monde dans la société, mais particulièrement pour le secteur du BTP, d'identifier qu'on a tous notre rôle à jouer, tous les acteurs, quel que soit son niveau d'intervention, et effectivement de les sensibiliser à travers, parce que ces labs, c'est aussi des matériothèques pour apprendre à identifier les produits qui sont peut-être à privilégier dans le cadre de ces enjeux qui sont environnementaux, qui sont là, et c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et qu'effectivement, comment eux, ils peuvent y intervenir, que ce soit dans le cadre d'un CAP, d'un BP, d'un bac pro, d'un BTS et même d'une licence, comment en tant qu'acteur, voire décideur dans les prescriptions, on peut être un levier pour essayer d'être meilleur que ce que l'on a pu être par le passé. En tout cas, ça c'est un bel enjeu pour nos centres de ressources et donc nos labs pour être justement à l'aube de ces changements qui sont aujourd'hui urgents et qui sont en cours dans nos formations et dans nos établissements.
Alors ça, c'est pour ce Lab Connect. Et déjà, des prochaines étapes, des perspectives déjà pour vous ?
Alors effectivement, je le disais aujourd'hui, c'est que d'un espace qui était un lieu d'aide à la formation, ce soit un lieu central dans le dispositif d'ingénierie de parcours de formation. Et qu'effectivement, la notion de, on est passé, on l'a dit, de CRAF à Lab, et aujourd'hui, c'est une nouvelle dimension, c'est le Lab Connect. Et connecté, parce que bien sûr, connecté aux outils numériques, mais aussi connecté aux autres labs qu'on souhaite développer dans les CFA. Donc, c'est-à-dire des labs, par exemple, un lab qu'on appelait Lab EOS pour l'enseignement objectif spécifique pour tous les jeunes qui arrivent dans nos établissements, qui sont issus d'une migration récente, qui maîtrisent parfois difficilement le français. Mais comment ces jeunes, dans ce laboratoire, dans ce lab, on va pouvoir les accompagner, avoir une ingénierie, des ressources humaines, mais aussi des ressources numériques, pour les accompagner au mieux dans leur parcours de formation. Un autre lab, puisqu'au total, il y a 5 labs, un lab de créativité, qu'on appelait Lab Créa, où l'idée, c'est effectivement de permettre, qui intégrera bien sûr l'imprimante 3D qu'on évoquait tout à l'heure, mais d'autres ressources numériques, des découpeurs laser ou des tours numériques. L'objectif, mais de la même façon, un studio photo, un studio vidéo, l'idée, c'est que les jeunes puissent être là pour créer, innover, et eux-mêmes apporter du contenu à leur parcours de formation. Un autre lab, c'est un lab de mobilité. On a tous des obligations, pas pour l'enseignement des langues. Par contre, quel sens ça a pour un jeune qui parfois a eu quelques difficultés? On sait qu'en France, on n'est pas très à l'aise dans ces enseignements-là, mais l'idée, c'est dans ce lab d'interroger notre fonctionnement pédagogique, mais de mettre ces jeunes dans une perspective. Si j'apprends des langues étrangères, c'est parce qu'on a inscrit dans le parcours de formation, et c'est l'ambition de BTV60, des parcours de mobilité européenne, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos niveaux 4 vont partir et partent dans des projets d'immersion professionnelle qui durent en général 15 jours et parfois 6 mois pour les mobilités longues dans une entreprise européenne. Voilà, des labs numériques qui vont intégrer aussi des outils à la fois de formation sur tout ce qui ont les systèmes virtuels, de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, des systèmes aussi donc de soudage numérique, je l'ai dit par exemple. Mais c'est à la fois de la formation, mais aussi de l'information pour attirer. On sait qu'on est dans un secteur professionnel qui a un déficit d'image, qui a du mal à vendre entre guillemets les perspectives qu'il offre. Et ben, dans s'en servir cet outil, de cet espace numérique, pour montrer nos métiers, montrer à quoi et mettre en simulation les jeunes qui viendraient découvrir nos métiers, mais avec des représentations, et là, de casser ces codes-là. Mmh. Donc, c'est en ce sens qu'il y a des synergies qui se font autour de ce lab qui devient donc un Lab Connect. Voilà. Ça, c'est l'ambition qu'on a pour les 3 prochaines années.
Voilà, ça fait des belles ambitions et ça préfigure, en fait, on va dire, le CFA de demain. Alors, Mickaël Tassin, vous le voyez comment, justement, ce CFA de demain? C'est typiquement une réorganisation aussi des espaces, créer voilà, des formes de tiers-lieux dont on parlait.
Oui, alors effectivement, nous, lors de la réflexion sur le lab qu'on mène depuis 2018, il y avait forcément la réflexion sur le poste et les évolutions du poste des responsables de lab, mais effectivement, il y avait aussi une réflexion sur le bâtiment, le lieu, l'espace dans lequel le lab vient s'installer. Et du coup, nos réflexions nous ont amené à faire des préconisations et on est sur des lieux maintenant qu'on essaye d'être le plus polyvalent possible, le plus modulable possible. Donc ça passe par de l'investissement sur des nouveaux mobiliers qui sont plus légers, plus mobiles, qui peuvent servir à plusieurs choses en même temps. Et l'idée, c'est dans ces labs de pouvoir créer des espaces très rapidement, créer et puis les défaire à partir du moment où on n'en a plus besoin, pour pouvoir refaire un nouvel espace à la place. Et puis, alors ça, c'est très intéressant parce que ça s'ancre aussi dans une politique là qui touche l'ensemble de BTP CFA Centre, c'est que certains CFA qui sont vieillissants, je pense notamment au mien, BTP CFA Indre-et-Loire, eh bien, on va mener d'ici 2 ou 3 ans une grande restructuration. Donc, la place du lab en tant qu'espace et bâtiment va être entièrement revu au vu des préconisations qu'on a fait, et on va pouvoir pousser les murs, mieux connecter le lab aux ateliers et aux salles d'enseignement général pour en faire un espèce de hub, un espèce de point de passage où on vient se confronter à la technologie, à l'innovation, on vient apprendre, on vient tester, on vient innover.
Alors quelques mots en conclusion, Christophe Delmure.
Oui, alors effectivement, là, on a beaucoup parlé de la place du lab dans notre établissement. L'idée aussi, c'est d'en faire un tiers-lieu, ce que vous avez évoqué, mais qui soit ouvert aussi au reste de la société. Et l'idée étant, c'est que de le rendre accessible. Bien sûr qu'il est accessible en premier lieu pour les formateurs, les apprenants des CFA. Il est aussi pour d'autres acteurs, pourquoi pas le monde associatif, des établissements scolaires qui seraient autour de nos établissements. Et c'est là aussi, c'est d'ouvrir les horizons. Par exemple, le lab aujourd'hui sur le campus du Loir-et-Cher fait que les jeunes en BTS peuvent y venir jusqu'à 22h, 23h parce qu'ils sont dans la conduite de projet, etc. Donc de le rendre accessible. Mais de la même façon, il est ouvert à d'autres acteurs de la vie sociale, de l'environnement, en l'occurrence du Loir-et-Cher. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir nos horizons, tant sur le champ de la formation que de la place des campus au sein de la société dans laquelle ils évoluent.
Et bien voilà, on comprend pourquoi vous avez eu ce grand prix du jury des trophées de l'innovation du WinLab importé par 3 CABTP, donc autour de ce projet Lab Connect qui préfigure le CFA de demain. Merci Christophe Delmure qui a été donc pilote, on va dire, du développement numérique de ce projet pour le BTP CFA Centre-Val de Loire, et à Michael Tassin qui était l'équipe, le capitaine de cette équipe qui a réuni donc des formateurs, on l'a dit, de plusieurs départements. Merci beaucoup à tous les deux. On va marquer une courte pause et puis on aura la séquence améliorer nos lieux de vie. On va parler des enjeux de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur.